Chapitre 2, suite. Christophe était alors attiré par la forme dramatique. Il n'osait pas s'abandonner librement au flot de son lyrisme intérieur. Il avait besoin de le canaliser en des sujets précis. Et sans doute est-il bon pour un jeune génie qui n'est pas encore maître de soi, qui ne sait même pas encore ce qu'il est exactement, de se fixer des limites volontaires ou enfermer son âme qui se dérobe à lui. Ce sont les écluses nécessaires qui permettent de diriger le cours de la pensée. Malheureusement, il manquait à Christophe un poète. Il était obligé de se tailler lui-même ses sujets, dans la légende ou dans l'histoire. Parmi les visions qui flottaient en lui depuis quelques mois, étaient des images de la Bible. La Bible, que sa mère lui avait donnée comme compagne d'exil, avait été pour lui une source de rêve. Bien qu'il ne la lût point dans un esprit religieux, l'énergie morale, ou pour mieux dire vitale, de cette Iliade hébraïque, lui était une fontaine où, le soir, il lavait son âme nue, salie par les fumées et les boues de Paris. Il ne s'inquiétait pas du sens sacré du livre, mais ce n'en était pas moins pour lui un livre sacré, par le souffle de nature sauvage et d'individualité primitive qu'il y respirait. Il buvait ses hymnes de la terre dévorée de foi, des montagnes palpitantes, des cieux exultants et des lions humains. Une des figures du livre pour qui il avait une tendresse était David adolescent. Il ne lui prêtait pas l'ironique sourire de gamin de Florence, ni l'attention tragique que Verrocchio et Michel-Ange avaient donnée à leurs œuvres sublimes. Il ne les connaissait pas. Il voyait son David comme un pâtre poétique, au cœur vierge, où dormait l'héroïsme, un Siegfried du Midi, de race plus affinée, plus harmonieux de corps et de pensée. Car il avait beau se révolter contre l'esprit latin, cet esprit s'infiltrait en lui. Ce n'est pas seulement l'art qui influe sur l'art. Ce n'est pas seulement la pensée, c'est tout ce qui nous entoure. Les êtres et les choses, les gestes et les mouvements, les lignes et la lumière. L'atmosphère de Paris est bien forte. Elle modèle les âmes les plus rebelles. Moins que tout autre, une âme germanique est capable de résister. Elle se drape en vain dans son orgueil national. Elle est, de toutes les âmes d'Europe, la plus prompte à se dénationaliser. Celle de Christophe avait déjà commencé, à son insu, de prendre à l'art latin une sobriété, une clarté du cœur, et même, dans une certaine mesure, une beauté plastique qu'elle n'aurait pas eue sans cela. Son David l'attestait. Il avait voulu retracer la rencontre avec Saül, et il l'avait conçu comme un tableau symphonique à deux personnages. Sur un plateau désert, dans une lande de bruyère en fleurs, le petit pâtre était couché et rêvait au soleil. La sereine lumière, le bourdonnement des êtres, le doux frémissement des herbes, les grelots argentins des troupeaux qui paissaient, la force de la terre berçait la rêverie de l'enfant inconscient de ses divines destinées. Indolemment, il mêlait sa voix et les sons d'une flûte au silence harmonieux. Ce chant était d'une joie si calme, si limpide, que l'on ne songeait même plus, en l'entendant, à la joie ou à la douleur, mais qu'il semblait que c'était ainsi, que ce ne pouvait être autrement. Soudain, de grandes ombres s'étendaient sur la lande. L'air se taisait. La vie semblait se retirer dans les veines de la terre. Le chant de flûte, seul, tranquille, continuait. Saül, halluciné, passait. Le roi des morts, rongé par le néant, s'agitait comme une flamme qui se dévore et que tord l'ouragan. Il suppliait, injuriait, défiait le vide qui l'entourait et qu'il portait en lui. Et lorsqu'à bout de souffle, il tombait sur la lande, reparaissait dans le silence le sourire du chant du pâtre qui ne s'était pas interrompu. Alors Saül, écrasant les battements de son cœur tumultueux, venait, en silence, près de l'enfant couché. En silence, il le contemplait. Il s'asseyait près de lui et posait sa main fiévreuse sur la tête du berger. David, sans se troubler, se retournait et regardait le roi. Il appuyait sa tête sur les genoux de Saül et reprenait sa musique. L'ombre du soir tombait. David s'endormait en chantant, et Saül pleurait. Et dans la nuit étoilée, s'élevait de nouveau l'hymne de la nature ressuscitée et le chant de grâce de l'âme convalescente. Christophe, en écrivant cette scène, ne s'était occupé que de sa propre joie. Il n'avait pas songé aux moyens d'exécution, et surtout, il ne lui serait pas venu à l'idée qu'elle pût être représentée. Il la destinait au concert, pour le jour où les concerts daigneraient l'accueillir. Un soir qu'il en parlait à Achille Roussin, et que sur sa demande, il avait essayé de lui en donner une idée, au piano, il fut bien étonné de voir Roussin prendre feu et flamme pour l'œuvre, déclarant qu'il fallait qu'elle fût jouée sur une scène parisienne, et qu'il en faisait son affaire. Il fut bien plus étonné encore, quand il vit, quelques jours après, que Roussin prenait la chose au sérieux. Et son étonnement toucha à la stupeur, lorsqu'il apprit que Sylvain Cohn, Goujard et Lucien Lévi-Cœur lui-même s'y intéressaient. Il lui fallait admettre que les rancunes personnelles de ces gens cédaient à l'amour de l'art. Cela le surprenait bien. Le moins empressé à faire jouer son œuvre, c'était lui. Elle n'était pas faite pour le théâtre. C'était un non-sens de l'y donner. Mais Roussin fut si insistant, Sylvain Cohn si persuasif, et Goujard si affirmatif, que Christophe se laissa tenter. Il fut lâche. Il avait tellement envie d'entendre sa musique. Tout fut facile à Roussin. Directeurs et artistes s'empressèrent à lui plaire. Justement, un journal organisait une matinée de gala au profit d'une œuvre de bienfaisance. Il fut convenu qu'on y jouerait le David. On réunit un bon orchestre. Quant au chanteur, Roussin prétendait avoir trouvé pour le rôle de David l'interprète idéal. Les répétitions commencèrent. L'orchestre se tira assez bien de la première lecture, quoiqu'il fût peu discipliné, à la façon française. Le Saül avait une voix un peu fatiguée, mais honorable, et il savait son métier. Pour le David, c'était une belle personne, grande, grasse, bien faite, mais une voix sentimentale et vulgaire, qui s'étalait lourdement avec des trémolos de mélodrame et des grâces de café-concert. Christophe fit la grimace. Dès les premières mesures qu'elle chanta, il fut évident pour lui qu'elle ne pourrait conserver le rôle. À la première pause de l'orchestre, il alla trouver l'impresario, qui s'était chargé de l'organisation matérielle du concert, et qui, avec Sylvain Cohn, assistait à la répétition. Ce personnage, le voyant venir, lui dit, le visage rayonnant, « Eh bien, vous êtes content ?»« Oui, dit Christophe, je crois que cela s'arrangera. Il n'y a qu'une chose qui ne va pas, c'est la chanteuse. Il faudra changer cela. Dites-le-lui gentiment, vous avez l'habitude. Il vous sera bien facile de m'en trouver une autre. » L'impresario eut l'air stupéfait. Il regarda Christophe comme s'il ne savait pas si Christophe parlait sérieusement. Et il dit, « Mais ce n'est pas possible. » « Pourquoi ne serait-ce pas possible ?» demanda Christophe. L'impresario échangea un coup d'œil avec Sylvain Cohn, narquois, et il reprit, « Mais elle a tant de talent !»« Elle n'en a aucun !» dit Christophe. « Comment ? Une si belle voix ?»« Elle n'en a aucune. Et puis, une si belle personne. Je m'en fous. »« Cela ne nuit pourtant pas, » fit Sylvain Cohn en riant. « J'ai besoin d'un David et d'un David qui sache chanter. » « Je n'ai pas besoin de la belle Hélène, » dit Christophe. L'impresario se frottait le nez avec embarras. « C'est bien ennuyeux, » dit-il. « C'est pourtant une excellente artiste, je vous assure. Elle n'a peut-être pas tous ses moyens aujourd'hui. Vous devriez encore essayer. »« Je veux bien, » dit Christophe, « mais c'est du temps perdu. » Il reprit la répétition. Ce fut encore pis. Il eut peine à aller jusqu'au bout. Il devenait nerveux. Ses observations à la chanteuse, d'abord froides mais polies, se faisaient sèches et coupantes, en dépit de la peine évidente qu'elle se donnait afin de le satisfaire, et des œillades qu'elle lui décochait pour conquérir ses bonnes grâces. L'impresario, prudemment, interrompit la répétition au moment où les affaires menaçaient de se gâter. Pour effacer le mauvais effet des observations de Christophe, il s'empressait auprès de la chanteuse et lui prodiguait de pesantes galanteries, lorsque Christophe, qui assistait à ce manège, avec une impatience non dissimulée, lui fit signe impérieusement de venir, et dit, « Il n'y a pas à discuter. Je ne veux pas de cette personne, c'est désagréable, je le sais, mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Arrangez-vous comme vous voudrez. » L'impresario s'inclina, d'un air ennuyé, et dit avec indifférence, « Je n'y puis rien. Adressez-vous à M. Roussin. En quoi cela regarde-t-il M. Roussin ? Demanda Christophe. Je ne veux pas l'ennuyer de ses affaires.
Cela ne l'ennuiera pas, dit Sylvain Cône, ironique. Et il lui montra Roussin qui, justement, entrait.
Christophe alla au-devant de lui. Roussin, d'excellente humeur, s'exclamait.
Eh quoi, déjà fini ? J'espérais entendre encore une partie.
Eh bien, mon cher maître, qu'est-ce que vous en dites ? Êtes-vous satisfait ?
Tout va très bien, dit Christophe. Je ne puis assez vous remercier.
Du tout, du tout. Il n'y a qu'une seule chose qui ne peut pas marcher.
Dites, dites, nous arrangerons cela. Je tiens à ce que vous soyez content.
Eh bien, c'est la chanteuse. Entre nous, elle est exécrable.
Le visage épanoui de Roussin se glaça subitement. Il dit d'un air sévère,
« Vous m'étonnez, mon cher. »«
Elle ne vaut rien, rien du tout, » continua Christophe. « Elle n'a ni voix, ni goût, ni métier, pas l'ombre de talent. Vous avez de la chance de ne pas l'avoir entendue tout à l'heure. »
Roussin, de plus en plus pincé, coupa la parole à Christophe et dit d'un ton cassant,
« Je connais Mademoiselle de Saint-Ygraine. C'est une artiste de grand talent. J'ai la plus vive admiration pour elle. Tous les gens de goût à Paris pensent comme moi. » Et il tourna le dos à Christophe.
Christophe le vit offrir son bras à l'actrice et sortir avec elle. Comme il restait stupéfait, Sylvain Cône, qui avait suivi la scène avec délice, lui prit le bras et lui dit, en riant, tandis qu'il descendait l'escalier du théâtre,
« Mais vous ne savez donc pas quelle est sa maîtresse ?»
Christophe comprit. Ainsi, c'était pour elle, ce n'était pas pour lui que l'on montait la pièce. Il s'expliqua l'enthousiasme de Roussin, ses dépenses, l'empressement de ses acolytes. Il écoutait Sylvain Cône qui lui contait l'histoire de la Saint-Ygraine, une divette de music-hall qui, après s'être exhibée avec succès dans des petits théâtres de genre, avait été prise de l'ambition, commune à beaucoup de ses pareils, de se faire entendre sur une scène plus digne de son talent. Elle comptait sur Roussin pour la faire engager à l'opéra ou à l'opéra comique. Et Roussin, qui ne demandait pas mieux, avait trouvé dans la représentation du David une occasion de révéler sans risque au public parisien les dons lyriques de la nouvelle tragédienne, dans un rôle qui n'exigeait presque aucune action dramatique et qui mettait en pleine valeur l'élégance de ses formes. Christophe écouta l'histoire jusqu'au bout. Puis il se dégagea du bras de Sylvain Cône et il éclata de rire. Il rit longuement. Quand il eut fini de rire, il dit « Vous me dégoûtez tous. L'art ne compte pas pour vous. Ce sont toujours des questions de femmes. On monte un opéra pour une danseuse, pour une chanteuse, pour la maîtresse de Monsieur un tel, ou de Madame une telle. Vous ne pensez qu'à vos cochonneries. Voyez-vous, je ne vous en veux pas. Vous êtes ainsi, restez ainsi si cela vous plaît, et barbotez dans votre auge. Mais séparons-nous. Nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble. Bonsoir. » Il le quitta, et rentré chez lui, il écrivit à Roussin qu'il retirait sa pièce, sans lui cacher les raisons qui la lui faisaient reprendre. Ce fut une rupture avec Roussin et avec tout son clan. Les conséquences s'en firent immédiatement sentir. Les journaux avaient mené un certain bruit autour de la représentation projetée, et l'histoire de la brouille du compositeur avec son interprète ne manqua pas de faire jaser. Un directeur de concert eut la curiosité de donner l'œuvre dans une de ses matinées du dimanche. Cette bonne fortune fut un désastre pour Christophe. L'œuvre fut jouée et sifflée. Tous les amis de la chanteuse s'étaient donné le mot pour administrer une leçon à l'insolent musicien. Et le reste du public, que le poème symphonique avait ennuyé, s'associa complaisamment au verdict des gens compétents. Pour comble de malchance, Christophe avait eu l'imprudence, afin de faire valoir son talent de virtuose, d'accepter de se faire entendre au même concert dans une fantaisie pour piano et orchestre. Les dispositions malveillantes du public, retenues dans une certaine mesure pendant l'exécution du David par le désir de ménager les interprètes, se donnèrent libre champ quand il se trouva en présence de l'auteur en personne, dont le jeu n'était pas d'ailleurs trop correct. Christophe, énervé par le bruit de la salle, s'interrompit brusquement au milieu du morceau, et regardant d'un air goguenard le public qui s'était tu soudain, il joua « Malbrook s'en va en guerre » et dit insolemment « Voilà ce qu'il vous faut ». Là-dessus, il se leva et partit. Ce fut un beau tumulte.
on criait qu'il avait insulté le public et qu'il devait venir faire des excuses à la salle. Les journaux, le lendemain, exécutèrent avec ensemble l'Allemand grotesque dont le bon goût parisien avait fait justice. Et puis ce fut le vide, de nouveau, complet, absolu. Christophe se retrouvait seul, une fois de plus seul que jamais, dans la grande ville étrangère et hostile. Il ne s'en affectait pas. Il commençait à croire que c'était sa destinée et qu'il resterait toute sa vie ainsi. Il ne savait pas qu'une grande âme n'est jamais seule, que si dénuée qu'elle soit d'amis par la fortune, elle finit toujours par les créer, qu'elle rayonne autour d'elle l'amour dont elle est pleine, et qu'à cette heure même où il se croyait isolé pour toujours, il était plus riche d'amour que les plus heureux du monde. Il y avait chez les Stevens une petite fille de 13 à 14 ans, à qui Christophe avait donné des leçons, en même temps qu'à Colette. Elle était cousine germaine de Colette et se nommait Grazia Buontempi. C'était une fillette au teint doré, rosissant délicatement aux pommettes, les joues pleines d'une santé campagnarde, un petit nez un peu relevé, la bouche grande, bien fendue, à demi entr'ouverte, le menton rond, très blanc, les yeux tranquilles, doucement souriants, le front rond, encadré d'une profusion de cheveux longs et soyeux, qui descendaient sans boucle, le long des joues, avec de légères et calmes ondulations. Une petite vierge d'Andrea del Sarto. Figure large, beau regard silencieux. Elle était italienne. Ses parents habitaient presque toute l'année à la campagne, dans une grande propriété du nord de l'Italie. Plaine, prairie, petit canot. De la terrasse sur le toit, on avait à ses pieds des flots de vignes d'or, d'où émergeaient de place en place les fuseaux noirs des cyprès. Au-delà, c'étaient les champs, le silence. On entendait meugler les bœufs qui retournaient le sol et les cris aigus des paysans à la charrue. « Hihi, fatinans !» Les cigales chantaient dans les arbres et les grenouilles le long de l'eau. Et la nuit, c'était l'infini du silence sous la lune aux flots d'argent. Au loin, de temps en temps, les gardiens des récoltes, qui sommeillaient dans les huttes de branchage, tiraient des coups de fusil pour avertir les voleurs qu'ils étaient réveillés. Pour ceux qui les entendaient, à demi assoupis, ce bruit n'avait pas plus d'autre sens que le tintement d'une horloge pacifique marquant au loin les heures de la nuit. Et le silence se refermait comme un manteau moelleux aux vastes plis sur l'âme. Autour de la petite Grazia, la vie semblait endormie. On ne s'occupait pas beaucoup d'elle. Elle poussait tranquillement dans le beau calme qui la baignait. Nulle fièvre, nulle hâte. Elle était paresseuse, elle aimait à flâner et dormir longuement. Elle restait étendue des heures dans le jardin. Elle se laissait flotter sur le silence comme une mouche sur un ruisseau d'été. Et parfois, brusquement, sans raison, elle se mettait à courir. Elle courait comme un petit animal, la tête et le buste légèrement inclinés vers la droite, souplement, sans raideur. Un vrai cabri qui grimpait, glissait parmi les pierres pour la joie de bondir. Elle causait avec les chiens, avec les grenouilles, avec les herbes, avec les arbres, avec les paysans, avec les bêtes de la basse-cour. Elle adorait tous les petits êtres qui l'entouraient, et aussi les grands, mais avec ceux-ci, elle se livrait moins. Elle voyait très peu de monde. La propriété était loin de la ville, isolée. Bien rarement passait sur la route poudreuse le pas traînant d'un grave paysan ou d'une belle campagnarde, aux yeux lumineux dans la figure hâlée, marchant d'un rythme balancé, la tête haute, la poitrine en avant. Grazia vivait des journées seule dans le parc silencieux. Elle ne voyait personne. Elle ne s'ennuyait jamais. Elle n'avait peur de rien. Une fois, un vagabond entra pour voler une poule dans la ferme déserte. Il s'arrêta interdit devant la petite fille couchée dans l'herbe, qui mangeait une longue tartine en chantonnant une chanson. Elle le regarda tranquillement et lui demanda ce qu'il voulait. Il dit « Donnez-moi quelque chose ou je deviens méchant ». Elle lui tendit sa tartine et dit avec ses yeux souriants « Il ne faut pas devenir méchant ». Alors il s'en alla. Sa mère mourut. Son père, très bon, très faible, était un vieil Italien de bonne race, robuste, jovial, affectueux,
mais un peu enfantin, et tout à fait incapable de diriger l'éducation de la petite. La sœur du vieux Buontempi, Madame Stevens, venue pour l'enterrement, fut frappée de l'isolement de l'enfant. Pour la distraire de son deuil, elle décida de l'emmener pour quelque temps à Paris. Grazia pleura, et le vieux papa aussi, mais quand Madame Stevens avait décidé quelque chose, il n'y avait plus qu'à se résigner. Nul ne pouvait lui résister. Elle était la forte tête de la famille, et dans sa maison de Paris, elle dirigeait tout, son mari, sa fille et ses amants, car elle menait de front ses devoirs et ses plaisirs. C'était une femme pratique et passionnée, au reste très mondaine et très agitée. Transplantée à Paris, la calme Grazia se prit d'adoration pour sa belle cousine Colette, qui s'en amusa. On conduisit dans le monde, on mena au théâtre la douce petite sauvageonne. On continuait de la traiter en enfant, et elle-même se regardait comme une enfant, quand déjà elle ne l'était plus. Elle avait des sentiments qu'elle cachait et dont elle avait peur, d'immenses élans de tendresse pour un objet ou pour un être. Elle était amoureuse en secret de Colette. Elle lui volait un ruban, un mouchoir. Souvent, en sa présence, elle ne pouvait dire un seul mot. Et quand elle l'attendait, quand elle savait qu'elle allait la voir, elle tremblait d'impatience et de bonheur. Au théâtre, lorsqu'elle voyait sa jolie cousine décolletée entrer dans la loge où elle était et attirer tous les regards, elle avait un bon sourire, humble, affectueux, débordant d'amour. Et son cœur se fondait lorsque Colette lui adressait la parole. En robe blanche, ses beaux cheveux noirs défaits et bouffants sur ses épaules brunes, mordillant le bout de ses longs gants, dans l'ouverture desquels elle fourrait le doigt par désœuvrement, à tout instant pendant le spectacle, elle se retournait vers Colette pour quêter un regard amical, pour partager le plaisir qu'elle ressentait, pour dire de ses yeux bruns et limpides « Je vous aime bien ». En promenade dans les bois, aux environs de Paris, elle marchait dans l'ombre de Colette, s'asseyait à ses pieds, courait devant ses pas, arrachait les branches qui auraient pu la gêner, posait des pierres au milieu de la boue. Et, un soir que Colette, frileuse au jardin, lui demanda son fichu, elle poussa un rugissement de plaisir, elle en fut honteuse après, du bonheur que la bien-aimée s'enveloppa d'un peu d'elle, et le lui rendit ensuite imprégné du parfum de son corps. Il y avait aussi des livres, certaines pages des poètes, lues en cachette, car on continuait de lui donner des livres d'enfants, qui lui causaient des troubles délicieux. Et plus encore, certaines musiques, bien qu'on lui dît qu'elle n'y pouvait rien comprendre. Et elle se persuadait qu'elle n'y comprenait rien. Mais elle était toute pâle et moite d'émotion. Personne ne savait ce qui se passait en elle à ces moments. En dehors de cela, elle était une fillette docile, étourdie, paresseuse, assez gourmande, rougissant pour un rien, tantôt se taisant pendant des heures, tantôt parlant avec volubilité, riant et pleurant facilement, ayant de brusques sanglots et un rire d'enfant. Elle aimait rire et s'amusait de petits riens. Jamais elle ne cherchait à jouer la dame. Elle restait enfant. Surtout, elle était bonne, elle ne pouvait souffrir de faire de la peine. Et elle avait de la peine du moindre mot un peu fâché contre elle. Très modeste, s'effaçant toujours, toute prête à aimer et à admirer tout ce qu'elle croyait voir de beau et de bon, elle prêtait aux autres des qualités qu'ils n'avaient pas. On s'occupa de son éducation, qui était très en retard. Ce fut ainsi qu'elle prit des leçons de piano avec Christophe. Elle le vit, pour la première fois, à une soirée de sa tante, où il y avait une société nombreuse. Christophe, incapable de s'adapter à aucun public, joua un interminable adagio qui faisait bâiller tout le monde. Quand cela semblait fini, cela recommençait. On se demandait si cela finirait jamais. Madame Stevens bouillait d'impatience. Colette s'amusait follement. Elle dégustait le ridicule de la chose, et elle ne savait pas mauvais gré à Christophe d'y être à ce point insensible. Elle sentait qu'il était une force, et cela lui était sympathique. Mais c'était comique aussi, et elle se fut bien gardée de prendre sa défense. Seule la petite Grazia était pénétrée jusqu'aux larmes par cette musique. Elle se dissimulait dans un coin du salon. À la fin, elle se sauva pour qu'on ne remarquât point son trouble, et aussi parce qu'elle souffrait de voir qu'on se moquait de Christophe. Quelques jours après, à dîner, Madame Stevens parla devant elle de lui faire donner des leçons de piano par Christophe. Radja fut si troublée qu'elle laissa retomber sa cuillère dans son assiette à soupe et qu'elle s'éclaboussa ainsi que sa cousine. Colette dit qu'elle aurait bien besoin d'abord d'avoir des leçons pour se tenir convenablement à table. Madame Stevens ajouta qu'en ce cas, ce n'était pas à Christophe qu'il faudrait s'adresser. Gratia fut heureuse d'être grondée avec Christophe. Christophe commença ses leçons. Elle était toute guindée et glacée, elle avait les bras collés au corps, elle ne pouvait remuer. Et quand Christophe posait la main sur sa menotte pour rectifier la position des doigts et les étendre sur les touches, elle se sentait défaillir. Elle tremblait de jouer mal devant lui. Mais elle avait beau étudier jusqu'à se rendre malade et jusqu'à faire pousser des cris d'impatience à sa cousine, toujours elle jouait mal quand Christophe était là. Le souffle lui manquait, ses doigts étaient raides comme du bois ou mous comme du coton. Elle accrochait les notes et accentuait à contresens. Christophe la grondait et s'en allait fâchée. Alors elle avait envie de mourir. Il ne faisait aucune attention à elle. Il n'était occupé que de Colette. Gratia enviait l'intimité de sa cousine avec Christophe. Mais quoi qu'elle en souffrît, son bon petit cœur s'en réjouissait pour Colette et pour Christophe. Elle trouvait Colette si supérieure à elle qu'il lui semblait naturel qu'elle absorbât tous les hommages. Ce ne fut que lorsqu'il fallut choisir entre sa cousine et Christophe qu'elle sentit son cœur prendre parti contre elle. Son intuition de petite femme lui fit voir que Christophe souffrait des coquetteries de Colette et de la cour assidue de Lévi-Cœur. D'instinct, elle n'aimait pas Lévi-Cœur, et elle le détesta dès le moment qu'elle sut que Christophe le détestait. Elle ne pouvait comprendre comment Colette s'amusait à le mettre en rivalité avec Christophe. Elle commença de la juger sévèrement en secret. Elle surprit certains de ses petits mensonges, et elle changea soudain de manière avec elle. Colette s'en aperçut sans en deviner la cause. Elle affectait de l'attribuer à ses caprices de petite fille. Mais le certain, c'est qu'elle avait perdu son pouvoir sur Gratia. Un fait insignifiant le lui montra. Un soir, que se promenant toutes deux au jardin, Colette voulait, avec une tendresse coquette, abriter Gratia sous les plis de son manteau contre une petite ondée qui s'était mise à tomber, Gratia, pour qui c'eût été quelques semaines avant un bonheur ineffable de se blottir contre le sein de sa chère cousine, s'écarta froidement. Et quand Colette disait qu'elle trouvait laid un morceau de musique que jouait Gratia, cela n'empêchait pas Gratia de le jouer et de l'aimer. Elle n'était plus attentive qu'à Christophe. Elle avait la divination de la tendresse et percevait ce qu'il souffrait. Elle se l'exagérait beaucoup, tant son attention inquiète et enfantine. Elle croyait que Christophe était amoureux de Colette quand il n'avait pour elle qu'une amitié exigeante. Elle pensait qu'il était malheureux, et elle était malheureuse pour lui. La pauvrette n'était guère récompensée de sa sollicitude. Elle paya pour Colette quand Colette avait fait enrager Christophe. Il était de mauvaise humeur et se vengeait sur sa petite élève en relevant impatiemment les fautes de son jeu. Un matin que Colette l'avait exaspéré encore plus qu'à l'ordinaire, il s'assit au piano avec tant de brusquerie que Gratia acheva de perdre le peu de moyens qu'elle avait. Elle pataugea. Il lui reprocha ses fausses notes avec colère, alors elle se noya tout à fait. Il se fâcha, il lui secoua les mains, il cria qu'elle ne ferait jamais rien de propre, qu'elle s'occupât de cuisine, de couture, de tout ce qu'elle voudrait, mais au nom du ciel, qu'elle ne fît plus de musique. Ce n'était pas la peine de martyriser les gens à entendre ses fausses notes. Sur quoi il la planta là, au milieu de sa leçon. Et la pauvre Gratia pleura toutes les larmes de son corps, moins encore du chagrin que lui faisaient ses humiliantes paroles, que du chagrin de ne pouvoir faire plaisir à Christophe, malgré tout son désir, et même d'ajouter encore par sa sottise à la peine de celui qu'elle aimait. Elle souffrit bien plus quand Christophe cessa de venir chez les Stevens. Elle voulut retourner au pays. Cet enfant, si saine jusque dans ses rêveries, et qui gardait en elle un fond de sérénité rustique, se sentait mal à l'aise dans cette ville, au milieu des Parisiennes neurasthéniques et agitées. Sans oser le dire, elle avait fini par juger assez exactement les gens qui l'entouraient. Mais elle était timide, faible comme son père, par bonté, par modestie, par défiance de soi. Elle se laissait dominer par sa tante autoritaire et par sa cousine habituée à tout tyranniser. Elle n'osait pas écrire à son vieux papa
à qui elle envoyait régulièrement de longues lettres affectueuses, « Je t'en prie, reprends-moi. » Et le vieux papa n'osait pas la reprendre, malgré tout son désir, car Madame Stevens avait répondu à ses timides avances que Gratia était bien où elle était, beaucoup mieux qu'elle ne serait avec lui, et que pour son éducation, il fallait qu'elle restât. Mais un moment arriva où l'exil devint trop douloureux à la petite âme du Midi, et où il fallut qu'elle reprît son vol vers la lumière. Ce fut après le concert de Christophe. Elle y était venue avec les Stevens, et ce fut un déchirement pour elle d'assister au spectacle hideux d'une foule s'amusant à outrager un artiste. Un artiste, celui qui, aux yeux de Gratia, était l'image même de l'art, la personnification de tout ce qu'il y avait de divin dans la vie. Elle avait envie de pleurer, de se sauver. Il lui fallut entendre jusqu'au bout le tapage, les sifflets, les huées, et au retour chez sa tante, les réflexions désobligeantes, le joli rire de Colette qui échangeait avec Lucien Lévi-Cœur des propos apitoyés. Réfugiée dans sa chambre, dans son lit, elle sanglota une partie de la nuit. Elle parlait à Christophe, elle le consolait. Elle eût voulu donner sa vie pour lui. Elle se désespérait de ne pouvoir rien pour le rendre heureux. Il lui fut désormais impossible de rester à Paris. Elle supplia son père de la faire revenir. Elle disait « Je ne peux plus vivre ici. Je mourrai si tu me laisses plus longtemps. » Son père vint aussitôt, et si pénible qu'il leur fût à tous deux de tenir tête à la terrible tante, ils en puisèrent l'énergie dans un effort de volonté désespéré. Gratia revint dans le grand parc endormi. Elle retrouva avec joie la chère nature et les êtres qu'elle aimait. Elle avait emporté et garda quelque temps encore dans son cœur endolori, qui se rassérénait, un peu de la mélancolie du Nord, comme un voile de brouillard que le soleil peu à peu faisait fondre. Elle pensait par moments à Christophe malheureux. Couché sur la pelouse, écoutant les grenouilles et les cigales familières, ou assise au piano, avec qui elle s'entretenait plus souvent qu'autrefois, elle rêvait de l'ami qu'elle s'était choisi. Elle causait avec lui, tout bas, pendant des heures, et il ne lui eût pas semblé impossible qu'il ouvrît la porte un jour et qu'il entrât. Elle lui écrivit, et après avoir hésité longtemps, elle lui envoya une lettre non signée, qu'elle alla un matin en cachette, cœur battant, jeter dans la boîte du village à 3 kilomètres de là, de l'autre côté des grands champs labourés. Une bonne lettre, touchante, qui lui disait qu'il n'était pas seul, qu'il ne devait pas se décourager, qu'on pensait à lui, qu'on l'aimait, qu'on priait Dieu pour lui. Une pauvre lettre qui s'égara sottement en route et qu'il ne reçut jamais. Puis les jours uniformes et sereins se déroulèrent dans la vie de la lointaine amie. Et la paix italienne, le génie du calme, du bonheur tranquille, de la contemplation muette, rentrèrent dans ce cœur chaste et silencieux, au fond duquel continuait de brûler, comme une flamme immobile, le souvenir de Christophe. Mais Christophe ignorait la naïve affection qui de loin veillait sur lui, et qui devait plus tard tenir tant de place dans sa vie. Et il ignorait aussi qu'à ce même concert, où il avait été insulté, assistait celui qui allait être l'ami, le cher compagnon, qui devait marcher auprès de lui côte à côte et la main dans la main. Il était seul, il se croyait seul. D'ailleurs, il n'en était aucunement accablé. Il ne ressentait plus cette amère tristesse qui l'angoissait la guerre en Allemagne. Il était plus fort, plus mûr. Il savait que ce devait être ainsi. Ses illusions sur Paris étaient tombées. Tous les hommes étaient partout les mêmes. Il fallait en prendre son parti et ne pas s'obstiner dans une lutte enfantine contre le monde. Il fallait être soi-même, avec tranquillité. Comme disait Beethoven, « Si nous livrons à la vie les forces de notre vie, que nous restera-t-il pour le plus noble, pour le meilleur ?» Il avait pris vigoureusement conscience de sa nature et de sa race, qu'il avait jugée si sévèrement jadis. À mesure qu'il était plus oppressé par l'atmosphère parisienne, il éprouvait le besoin de se réfugier auprès de sa patrie, dans les bras des poètes et des musiciens, où le meilleur d'elle-même s'est recueilli. Dès qu'il ouvrait leurs livres, sa chambre se remplissait du bruissement du Rhin ensoleillé et de l'affectueux sourire des vieux amis délaissés. Comme il avait été ingrat envers eux, comment n'avait-il pas senti plus tôt le trésor de leur candide bonté? Il se rappelait avec honte tout ce qu'il avait dit d'injuste et d'outrageant pour eux quand il était en Allemagne. Alors, ils ne voyaient que leurs défauts, leur manière gauche et cérémonieuse, leur idéalisme larmoyant, leurs petits mensonges de pensée, leurs petites lâchetés. Ah, c'était si peu de choses auprès de leur grande vertu. Comment avait-il pu être aussi cruel pour des faiblesses qui les rendaient en ce moment presque plus touchants à ses yeux, car ils en étaient plus humains. Par réaction, il était attiré davantage par ceux d'entre eux pour qui il avait été le plus injuste. Que n'avait-il point dit contre Schubert et contre Bach? Et voici qu'il se sentait tout près d'eux à présent. Voici que ces grandes âmes, dont il avait relevé avec impatience les ridicules, se penchaient vers lui, exilés loin des siens, et lui disaient avec un bon sourire, « Frère, nous sommes là, courage, nous avons eu, nous aussi, plus que notre lot de misère. Bah, on en vient à bout. » Il entendait gronder l'océan de l'âme de Jean-Sébastien Bach. Les ouragans, les vents qui soufflent, les nuages de la vie qui s'enfuient, les peuples ivres de joie, de douleur, de fureur, et le Christ, plein de mansuétude, le prince de la paix, qui plane au-dessus d'eux. Les villes émerveillées par les cris des veilleurs, se ruant avec des clameurs d'allégresse, au-devant du fiancé divin dont les pas ébranlent le monde. Le prodigieux réservoir de pensées, de passions, de formes musicales, de vie héroïque, d'hallucinations shakespeariennes, de prophéties à la Savonarole, de visions pastorales, épiques, apocalyptiques, enfermées dans le corps étriqué du petit cantor thuringien, au double menton, aux petits yeux brillants sous les paupières plissées et les sourcils relevés. Il le voyait si bien, sombre, jovial, un peu ridicule, le cerveau bourré d'allégories et de symboles, gothique et rococo, colère, têtu, serein, ayant la passion de la vie et la nostalgie de la mort. Il le voyait dans son école, pédant génial, au milieu de ses élèves, sale, grossier, mendiant, galeux, aux voix éraillées, ces vauriens avec qui il se chamaillait, avec qui il se battait parfois comme un portefeuille, et dont l'un le roua de coups. Il le voyait dans sa famille, au milieu de ses 21 enfants, dont 13 moururent avant lui, dont un fut idiot. Les autres, bons musiciens, lui faisaient de petits concerts. Des maladies, des enterrements, d'aigres disputes, la gêne, son génie méconnu. Et par là-dessus, sa musique, sa foi, la délivrance et la lumière, la joie entrevue, pressentie, voulue, saisie. Dieu, le souffle de Dieu brûlant ses os, hérissant son poil, foudroyant par sa bouche. Ô force, force, tonnerre bienheureux de force. Christophe buvait à longs traits cette force. Il sentait le bienfait de cette puissance de musique qui ruisselle des âmes allemandes. Médiocre souvent, grossière même, qu'importe. L'essentiel, c'est qu'elle soit, qu'elle coule à plein bord. En France, la musique est recueillie, goutte à goutte, par des filtres pasteurs dans des carafes soigneusement bouchées. Et ces buveurs d'eau fade font les dégoûter devant les fleuves de la musique allemande. Ils épluchent les fautes des génies allemands. Pauvre petit, pensait Christophe, sans se souvenir que lui-même, naguère, avait été aussi ridicule. Il trouve des défauts dans Wagner et dans Beethoven. Il leur faudrait des génies qui n'eussent pas de défauts, comme si, quand souffle la tempête, elle allait s'occuper de ne rien déranger au bel ordre des choses. Il marchait dans Paris, tout joyeux de sa force. Tant mieux s'il était incompris. Il en serait plus libre. Pour créer, comme c'est le rôle du génie, un monde de toutes pièces, organiquement constitué suivant ses lois intérieures, il faut y vivre tout entier. Un artiste n'est jamais trop seul. Ce qui est redoutable, c'est de voir sa pensée se refléter dans un miroir qui la déforme et l'amoindrit. Il ne faut rien dire aux autres de ce qu'on fait avant de l'avoir fait. Sans cela, on n'aurait plus le courage d'aller jusqu'au bout, car ce ne serait plus son idée, mais la misérable idée des autres qu'on verrait en soi. Maintenant que rien ne venait plus le distraire de ses rêves, il jaillissait comme des fontaines de tous les coins de son âme et de toutes les pierres de sa route. Il vivait dans un état de visionnaire. Tout ce qu'il voyait et entendait évoquait en lui des êtres et des choses différents de ce qu'il voyait et entendait. il n'avait qu'à se laisser vivre pour retrouver autour de lui la vie de ses héros. Leurs sensations venaient le chercher d'elles-mêmes. Les yeux de ceux qui passaient, le son d'une voix que le vent apportait, la lumière sur une pelouse de gazon, les oiseaux qui chantaient dans les arbres du Luxembourg, une cloche de couvent qui sonnait au loin, le ciel pâle, le petit coin du ciel vu du fond de sa chambre, les bruits et les nuances des diverses heures du jour, il ne les percevait pas en lui, mais dans les êtres qu'il rêvait. Christophe était heureux. Cependant, sa situation était plus difficile que jamais. Il avait perdu les quelques leçons de piano qui étaient son unique ressource. On était en septembre, la société parisienne était en vacances, et il était malaisé de trouver d'autres élèves. Le seul qu'il eut était un ingénieur, intelligent et braque, qui s'était mis en tête, à 40 ans, de devenir un grand violoniste. Christophe ne jouait pas très bien du violon, mais il en savait toujours plus que son élève. Et pendant quelque temps, il lui donna 3 heures de leçons par semaine, à 2 francs l'heure. Mais au bout d'un mois et demi, l'ingénieur se lassa, découvrant tout à coup que sa vocation principale était pour la peinture. Le jour qu'il fit part de cette découverte à Christophe, Christophe rit beaucoup. Mais quand il eut bien ri, il fit le compte de ses finances et constata qu'il avait juste en poche les 12 francs que son élève venait de lui payer pour ses dernières leçons. Cela ne l'émut point. Il se dit seulement qu'il allait devoir décidément se mettre en quête d'autres moyens d'existence, recommencer les courses auprès des éditeurs. Ce n'était point réjouissant. Inutile de s'en tourmenter à l'avance. Aujourd'hui, il faisait beau. Il s'en alla à Meudon. Il avait une fringale de marche. La marche faisait lever des moissons de musique. Il en était plein, comme une ruche, de miel. Et il riait au bourdonnement doré de ses abeilles. C'était, à l'ordinaire, une musique qui modulait beaucoup, et des rythmes bondissants, insistants, hallucinants. Allez donc créer des rythmes quand vous êtes engourdi dans votre chambre. Bon pour amalgamer alors des harmonies subtiles et immobiles, comme ces Parisiens. Quand il fut las de marcher, il se coucha dans les bois. Les arbres étaient à demi défeuillés, le ciel bleu de pervenche. Christophe s'engourdit dans une rêverie qui prit bientôt la teinte de la douce lumière qui tombe des nuages d'octobre. Son sang battait. Il écoutait passer les flots pressés de ses pensées. Il en venait de tous les points de l'horizon. Monde jeunes et vieux qui se livraient bataille, lambeaux d'âmes passées, hôtes anciens, parasites qui vivaient en lui comme le peuple d'une ville. L'ancienne parole de Gottfried devant la tombe de Melchior lui revenait à l'esprit. Il était un tombeau vivant, plein de morts qui s'agitaient, toute sa race inconnue. Il écoutait cette multitude de vies. Il se plaisait à faire bruire l'orgue de cette forêt séculaire, pleine de monstres, comme la forêt de Dante. Il ne les craignait plus maintenant, comme au temps de son adolescence, car le maître était là, sa volonté. Il avait une forte joie à faire claquer son fouet pour que les bêtes hurlassent, et qu'il sentit mieux la richesse de sa ménagerie intérieure. Il n'était pas seul. Il n'y avait pas de risque qu'il le fût jamais. Il était toute une armée, des siècles de craft joyeux et sains. Contre Paris hostile, contre un peuple, tout un peuple, la lutte était égale. Il avait abandonné sa modeste chambre, trop chère, pour prendre dans le quartier de Montrouge une mansarde qui, à défaut d'autres avantages, était très aérée, un courant d'air perpétuel. Mais il lui fallait respirer. De sa fenêtre, il avait une vue étendue sur les cheminées de Paris. Le déménagement n'avait pas été long, une charrette à bras suffit. Christophe la poussa lui-même. De tout son mobilier, l'objet le plus précieux pour lui était, avec sa vieille malle, un de ces moulages si vulgarisés depuis, du masque de Beethoven. Il l'avait empaqueté avec autant de soin que s'il s'était agi d'une œuvre d'art du plus haut prix. Il ne s'en séparait pas. C'était son île au milieu de Paris. Celui était aussi un baromètre moral. Le masque lui marquait, plus clairement que sa propre conscience, la température de son âme, ses plus secrètes pensées. Tantôt le ciel chargé de nuées, tantôt le coup de vent des passions, tantôt le calme puissant. Il dut rogner beaucoup sur sa nourriture. Il mangeait une fois par jour, à 1 heure de l'après-midi.
il avait acheté un gros saucisson qu'il avait pendu à sa fenêtre. Avec une bonne tranche, un solide quignon de pain et une tasse de café qu'il fabriquait, il faisait un repas des dieux. Mais il en eut bien fait deux. Il était fâché d'avoir si bon appétit. Il s'apostrophait sévèrement. Il se traitait de goinfre qui ne pense qu'à son ventre. De ventre, il n'en avait guère. Il était plus efflanqué qu'un chien maigre. Au reste, solide, une charpente de fer, et la tête toujours libre. Il ne s'inquiétait pas trop du lendemain. Tant qu'il avait devant lui l'argent de la journée, il ne se mettait pas en peine. Le jour où il n'eut plus rien, il se décida enfin à commencer les tournées chez les éditeurs. Il ne trouva de travail nulle part. Il revenait chez lui bredouille, quand, passant près du magasin de musique où il avait été présenté naguère par Sylvain Cohn à Daniel Hecht, il entra, sans se rappeler qu'il y était déjà venu dans des circonstances peu agréables. La première personne qu'il vit fut Hecht. Il fut sur le point de rebrousser chemin. Mais il était trop tard. Hecht l'avait vu. Christophe ne voulut pas avoir l'air de reculer. Il s'avança vers Hecht, ne sachant pas ce qu'il allait lui dire, et prêt à lui tenir tête avec autant d'arrogance qu'il le faudrait, car il était convaincu que Hecht ne lui ménagerait pas les insolences. Il n'en fut rien. Hecht, froidement, lui tendit la main. Avec une formule de politesse banale, il s'informa de sa santé, et sans même attendre que Christophe lui en fît la demande, il lui désigna la porte de son cabinet et s'effaça pour le laisser passer. Il était heureux, secrètement, de cette visite, que son orgueil avait prévue, mais qu'il n'attendait plus. Sans en avoir l'air, il avait suivi très attentivement Christophe. Il était au fameux concert du David, et l'accueil hostile du public l'avait d'autant moins étonné, dans son mépris du public, qu'il avait parfaitement senti toute la beauté de l'œuvre. Il n'y avait peut-être pas deux personnes à Paris qui fussent plus capables que Hecht d'apprécier l'originalité artistique de Christophe. Mais il se fut bien gardé de lui en rien dire, non seulement parce qu'il était piqué de l'attitude de Christophe à son égard, mais parce qu'il lui était impossible d'être aimable. C'était une disgrâce spéciale de sa nature. Il était sincèrement disposé à aider Christophe, mais il n'eut point fait un pas pour cela. Il attendait que Christophe vînt le lui demander. Et maintenant Christophe était venu. Au lieu de saisir généreusement l'occasion d'effacer le souvenir de leur malentendu, en épargnant à son visiteur une démarche humiliante, il se donna la satisfaction de le laisser exposer tout au long sa requête. Et il tint à lui imposer, au moins pour une fois, les travaux que Christophe avait refusés jadis. Il lui donna, pour le lendemain, 50 pages de musique à transposer pour mandoline et guitare. Après quoi, satisfait de l'avoir fait plier, il lui donna des occupations moins rebutantes, mais toujours avec une telle absence de bonne grâce qu'il était impossible de lui en savoir gré. Il fallait que Christophe fût talonné par la gêne pour recourir de nouveau à lui. En tout cas, il aimait encore mieux gagner son argent par ses travaux, si irritants qu'ils fussent, que le recevoir en don de Hecht, comme Hecht le lui offrit une fois. Et certes, c'était de bon cœur, mais Christophe avait senti l'intention que Hecht avait eue de l'humilier d'abord. Contraint d'accepter ses conditions, il se refusa du moins à accepter ses bienfaits. Il voulait bien travailler pour lui, donnant, il était quitte, mais il ne voulut rien lui devoir. Il n'était pas comme Wagner, se mendiant impudent pour son art, il ne mettait pas son art au-dessus de son âme. Le pain qu'il n'eût pas gagné lui-même l'eût étouffé. Un jour qu'il venait de rapporter la tâche qu'il avait passé la nuit à faire, il trouva Hecht à table. Hecht, remarquant sa pâleur et le regard qu'il jeta involontairement sur les plats, eut la certitude qu'il n'avait pas mangé et l'invita à déjeuner. L'intention était bonne, mais Hecht laissa si lourdement sentir qu'il avait vu le dénuement de Christophe que son invitation ressemblait à une aumône. Christophe fut mort de faim plutôt que d'accepter. Il ne put refuser de s'asseoir à table. Hecht avait à lui parler, mais il ne toucha rien. Il prétendit qu'il venait de déjeuner. Son estomac se crispait de besoin. Christophe eût voulu se passer de Hecht, mais les autres éditeurs étaient encore pires. Il y avait aussi les riches dilettantes qui accouchaient d'un lambeau de phrases musicales et qui n'étaient même pas capables de l'écrire. Ils faisaient venir Christophe et lui chantaient leur élucubration. « Hein, est-ce beau ?» Il la lui donnait à développer, à écrire en entier, et cela paraissait sous leur nom chez un grand éditeur. Après, ils étaient persuadés que le morceau était d'eux. Christophe en connut un, gentilhomme de bonne marque, un grand corps agité, qui lui donna du « cher ami », l'empoigna par le bras, lui prodiguant les démonstrations d'enthousiasme tempétueux, ricanant à son oreille, bafouillant des coqs à l'âne et des incongruités mêlées de cris d'extase, Beethoven, Verlaine, Offenbach, Yvette Guilbert. Il le faisait travailler et négligeait de le payer. Il soldait en invitation à déjeuner et en poignée de main. À la fin des fins, il envoya à Christophe 20 francs que Christophe se donna le luxe stupide de lui renvoyer. Ce jour-là, il n'avait pas 20 sous en poche, et il lui avait fallu acheter un timbre de 25 centimes pour écrire à sa mère. C'était le jour de la fête de la vieille Louisa, et pour rien au monde, Christophe n'eût voulu y manquer. La bonne femme comptait trop sur la lettre de son garçon. Elle n'aurait pu s'en passer. Elle lui écrivait un peu plus souvent, depuis quelques semaines, malgré la peine que cela lui coûtait d'écrire. Elle souffrait de sa solitude. Mais elle n'aurait pu se décider à venir rejoindre Christophe à Paris. Elle était trop timorée, attachée à sa petite ville, à son église, à sa maison. Elle avait peur des voyages. Et d'ailleurs, quand elle eût voulu venir, Christophe n'avait pas d'argent pour elle. Il n'en avait pas tous les jours pour lui-même. Un envoi qui lui fit bien plaisir, une fois, ce fut de Lorchen, la jeune paysanne pour laquelle il avait eu une rixe avec des soldats prussiens. Elle lui écrivait qu'elle se mariait. Elle donnait des nouvelles de la maman, et elle lui expédiait un panier de pommes et une part de galettes pour manger en son honneur. Cela tomba joliment à propos. Ce soir-là, chez Christophe, c'était jeûne, 4 temps et carême. Du saucisson pendu au clou près de la fenêtre, il ne restait plus que la ficelle. Christophe se compara aux saints anachorètes qu'un corbeau vient nourrir sur leur rocher. Mais le corbeau avait beaucoup à faire, sans doute, de nourrir tous les anachorètes, car il ne revint plus. Malgré tous ses ennuis, Christophe gardait son entrain. Il faisait dans sa cuvette la lessive de son linge, et il cirait ses chaussures en sifflant comme un merle. Il se consolait avec les mots de Berlioz, « Élevons-nous au-dessus des misères de la vie, et chantons d'une voix légère le gai refrain si connu, dies irae. » Il le chantait parfois au scandale des voisins, stupéfié de l'entendre s'interrompre au milieu par des éclats de rire. Il menait une vie rigoureusement chaste. Comme dit cet autre, la carrière d'amant est une carrière d'oisif et de riche. La misère de Christophe, la chasse au pain quotidien, sa sobriété excessive et sa fièvre de création ne lui laissaient ni le temps ni le goût de songer au plaisir. Il n'y était pas seulement indifférent. Par réaction contre Paris, il s'était jeté dans une sorte d'ascétisme moral. Il avait un besoin passionné de pureté, l'horreur de toute souillure. Ce n'était pas qu'il fût à l'abri des passions. À d'autres moments, il y avait été livré. Mais ses passions restaient chastes, même quand il y cédait, car il n'y cherchait pas le plaisir, mais le don absolu de soi et la plénitude de l'être. Et quand il voyait qu'il s'était trompé, il les rejetait avec fureur. La luxure n'était pas pour lui un péché comme les autres. C'était bien le grand péché, celui qui souille les sources de la vie. Tous ceux chez qui le vieux fond chrétien n'a pas été totalement enseveli sous les allusions étrangères, tous ceux qui se sentent encore aujourd'hui les fils des races vigoureuses qui, au prix d'une discipline héroïque, édifièrent la civilisation de l'Occident, n'ont pas de peine à le comprendre. Christophe méprisait la société cosmopolite, dont le plaisir était l'unique but, le credo. Certes, on fait bien de chercher le bonheur, de le vouloir pour les hommes, de combattre les déprimantes croyances pessimistes amassées sur l'humanité par 20 siècles de christianisme gothique. Mais c'est à condition que ce soit une généreuse foi qui veuille le bien des autres. Au lieu de cela, de quoi s'agit-il? De l'égoïsme le plus piteux. Une poignée de jouisseurs cherchent à faire rendre, à leur sens, le maximum de plaisir avec le minimum de risque, en s'accommodant fort bien que les autres en pâtissent. Oui, sans doute, on connaît leur socialisme de salon, mais est-ce qu'ils ne sont pas les premiers à savoir que leurs doctrines voluptueuses ne valent que pour le peuple des gras, pour une élite à l'engrais, et que pour les pauvres c'est un poison? La carrière du plaisir est une carrière de riches.
Christophe n'était point riche, ni fait pour le devenir. Quand il venait de gagner quelque argent, il se hâtait de le dépenser aussitôt en musique. Il se privait de nourriture pour aller au concert. Il prenait des dernières places tout en haut du théâtre du Châtelet. Et il se remplissait de musique. Elle lui tenait lieu de souper et de maîtresse. Il avait une telle faim de bonheur et tant d'aptitude à en jouir que les imperfections de l'orchestre ne parvenaient pas à le troubler. Il restait 2 ou 3 heures, engourdi dans un état de béatitude, sans que les fautes de goût et les fausses notes provoquassent en lui autre chose qu'un sourire indulgent. Il avait laissé sa critique à la porte. Il venait pour aimer et non pas pour juger. Autour de lui, le public s'abandonnait, comme lui, immobile, les yeux à demi clos, au grand torrent de rêves. Christophe avait la vision d'un peuple tapi dans l'ombre, ramassé sur lui-même, comme un énorme chat, couvant des hallucinations de volupté et de carnage. Dans les demi-ténèbres épaisses et dorées, se modelaient mystérieusement certaines figures, dont le charme inconnu et l'extase muette attiraient les regards et le cœur de Christophe. Il s'attachait à elles, il écoutait en elles, il finissait par s'assimiler corps et âme avec elles. Il arrivait qu'une d'elles s'en aperçût, et qu'il se tissât entre deux, pendant la durée du concert, une de ces sympathies obscures qui vont jusqu'au plus profond de l'être, sans qu'il en reste rien, une fois le concert fini et le courant rompu qui unissait les âmes. C'est un état que connaissent bien ceux qui aiment la musique, surtout quand ils sont jeunes et se donnent le plus. L'essence de la musique est tellement l'amour qu'on ne la goûte complètement que si on la goûte en un autre. Et au concert, on cherche instinctivement des yeux, au milieu de la foule, un ami avec qui partager une joie trop grande pour soi seul. Parmi ses amis d'une heure, dont Christophe faisait choix, afin de savourer mieux la douceur de la musique, une figure l'attirait, qu'il revoyait à chaque concert. C'était une petite grisette, qui devait adorer la musique sans rien y comprendre. Elle avait un profil de petite bête, un petit nez droit, dépassant à peine la ligne de la bouche légèrement avancée et du menton délicat, des sourcils fins élevés, des yeux clairs, un de ces minois insouciants, sous le voile desquels on sent de la joie, du rire, enveloppé d'une paix indifférente. Ces fillettes vicieuses, ces gamines ouvrières, reflètent peut-être le plus de la sérénité disparue, celle des statues antiques et des figures de Raphaël. Ce n'est là qu'un instant dans leur vie, le premier éveil du plaisir, la flétrissure est proche, mais elles ont vécu du moins une jolie heure. Christophe se délectait à la regarder. Une gentille figure lui faisait du bien au cœur. Il savait en jouir sans la désirer. Il puisait de la joie, de la force, de l'apaisement. Oui, presque de la vertu. Elle, cela va sans dire, avait vite remarqué qu'il la regardait. Et il s'était établi entre eux, sans y penser, un courant magnétique. Et comme ils se retrouvaient à peu près aux mêmes places à presque tous les concerts, ils n'avaient pas tardé à connaître leur goût. À certains passages, ils échangeaient un regard d'intelligence. Lorsqu'elle aimait particulièrement une phrase, elle tirait légèrement la langue comme pour se lécher les lèvres. Ou, pour montrer qu'elle ne trouvait pas cela bon, elle avançait dédaigneusement son gentil museau. Il se mêlait à ses petites mines un peu de cabotinage innocent, dont presque aucun être ne peut se dégager quand il se sait observer. Elle voulait se donner, parfois, pendant les morceaux sérieux, une expression grave, et, tournée de profil, l'air absorbé et la joue souriante, du coin de l'œil, elle regardait s'il la regardait. Ils étaient devenus très bons amis, sans s'être jamais dit un mot, et sans avoir même essayé, Christophe tout au moins, de se rencontrer à la sortie. Le hasard fit enfin qu'à un concert du soir, ils se trouvèrent placés l'un à côté de l'autre. Après un instant d'hésitation souriante, ils se mirent à causer amicalement. Elle avait une voix charmante et disait beaucoup de bêtises sur la musique, car elle n'y connaissait rien et voulait avoir l'air de s'y connaître. Mais elle l'aimait passionnément. Elle aimait la pire et la meilleure, Massenet et Wagner. Il n'y avait que la médiocre qui l'ennuya. La musique était une volupté pour elle. Elle la buvait par tous les pores de son corps, comme Danaé la pluie d'or. Le prélude de Tristan lui donnait la petite mort, et elle jouissait de se sentir emportée
comme une proie dans la bataille par la symphonie héroïque. Elle apprit à Christophe que Beethoven était sourd-muet et que, malgré cela, si elle l'avait connu, elle l'aurait bien aimé, quoiqu'il fût joliment laid. Christophe protesta que Beethoven n'était pas si laid. Alors ils discutèrent sur la beauté et sur la laideur, et elle convint que tout dépendait des goûts. Ce qui était beau pour l'un ne l'était pas pour l'autre. On n'était pas le louis d'or, on ne pouvait pas plaire à tout le monde. Il aimait mieux qu'elle ne parlât point. Il l'entendait bien mieux. Pendant la mort d'Isolde, elle lui tendit sa main. Sa main était toute moite. Il la garda dans la sienne jusqu'à la fin du morceau. Il sentait, à travers leurs doigts entrelacés, couler le flot de la symphonie. Ils sortirent ensemble. Il était près de minuit. Ils remontèrent en causant vers le Quartier Latin. Elle lui avait pris le bras, et il la reconduisit chez elle. Mais arrivé à la porte, comme elle se disposait à lui montrer le chemin, il la quitta sans prendre garde à ses yeux engageants. Sur le moment, elle fut stupéfaite, puis furieuse, puis elle se tordit de rire en pensant à sa sottise. Puis, rentrée dans sa chambre et se déshabillant, elle fut de nouveau agacée et finalement pleura en silence. Quand elle le revit au concert, elle voulut se montrer piquée, indifférente, un peu cassante. Mais il était si bon enfant que sa résolution ne tint pas. Ils se remirent à causer. Seulement, elle gardait avec lui maintenant une réserve. Il lui parlait cordialement, mais avec une grande politesse, et de choses sérieuses, de belles choses, de la musique qu'ils entendaient, et de ce que cela signifiait pour lui. Elle l'écoutait attentivement et tâchait de penser comme lui. Le sens de ses paroles lui échappait souvent, mais elle y croyait quand même. Elle avait pour Christophe un respect reconnaissant qu'elle lui montrait à peine. D'un accord tacite, ils ne se parlaient qu'au concert. Il la rencontra une fois au milieu d'étudiants. Ils se saluèrent gravement. À personne elle ne parlait de lui. Il y avait dans le fond de son âme une petite province sacrée, quelque chose de beau, de pur, de consolant. Ainsi Christophe commençait à exercer par sa seule présence, par le seul fait qu'il existait, une influence apaisante. Partout où il passait, il laissait inconsciemment une trace de lumière intérieure. Il était le dernier à s'en douter. Il y avait près de lui, dans sa maison, des gens qu'il n'avait jamais vus et qui, sans s'en douter eux-mêmes, subissaient peu à peu ce rayonnement bienfaisant.